Mais entre autres éléments très jubilatoires de ce petit livre par le format, le deuxième de Cécile Guilbert, il y a deux variations que j'aimerais que tu illustres, si tu veux bien, qui sont d'une part le prologue, dans lequel tu dis au fond qu'il est un mot français qui correspond bien au travail de Guy Debord, et là nous sommes dans un néo-bartisme, si je puis dire, c'est Debord, D-E-B-O-R-D, c'est-à-dire ce qui dépasse, ce qui surpasse, ce qui accentue, ce qui exagère. Et tu dis qu'il n'est pas un hasard si le patronyme de Debord, c'est celui-là, compte tenu de sa proximité avec le mot Debord. Et d'autre part, j'aimerais beaucoup que tu évoques cela aussi, il est un chapitre très intelligent, c'est assez fréquent sous la plume de Cécile Guilbert, l'intelligence, un rapprochement d'avec Jean-Luc Godard, qui, comme Debord, Debord-Godard, c'est presque les mêmes lettres en français. Et il y a des points communs entre les deux.
Ah oui, le Debord, c'est vrai que c'était un jeu de ma part sur ce mot et sur le fait que Guy Debord, qui avait tellement cultivé le secret, la clandestinité, qui n'apparaissait jamais, c'est vrai qu'on ne connaît qu'une ou deux photos de lui. C'est quelqu'un qui avait choisi, puisque tout son travail portait sur la critique de ce qu'il appelait le spectacle, et qui, contrairement à une opinion et une vulgate, ne concerne pas forcément le médiatique. C'est-à-dire qu'après la mort de Debord, on a toujours considéré que le spectacle voulait dire le médiatique, les écrans, le cinéma, la télé, etc., le journalisme. Mais dans l'esprit de Debord, le spectacle n'était pas ça. Je veux dire, le spectacle, dans l'esprit de Debord, c'était l'économie de marché devenue folle. C'est la définition qu'il donne du spectacle, c'est l'économie de marché devenue folle, et le raisonnement de toute la réalité par l'économie de marché, ce qui est évidemment excède de loin le médiatique. Donc cet homme est pris de clandestinité, de secret, n'a jamais changé de nom, n'a jamais pris de pseudonyme, etc. Donc je me joue effectivement, Olivier, de cette histoire de Debord, Debord, et sur le fait qu'il a été effectivement un penseur assez radical. Et sans doute le dernier penseur français de cette radicalité, et dont on pouvait dire que sa vie était totalement raccord avec sa pensée. C'est-à-dire que n'apparaissant jamais, c'est quelqu'un qui n'a jamais donné une interview à la télévision, c'est quelqu'un qui n'a jamais donné, qui ne donnait jamais d'interview dans les journaux, il publiait ses livres chez les Bovici, et puis on ne le voyait jamais. Alors c'est vrai que c'est pas forcément une bonne posture non plus, parce que ne jamais vouloir apparaître dans le spectacle ou le médiatique, finalement, c'est accorder beaucoup trop d'importance à ce médiatique. Mon éditeur Philippe Solers, dont on a parlé, qui se prétend debordien aussi maintenant, alors que...
Tu nous expliques en quoi...
Dans les années 60 et 70, il a jamais parlé de Debord, alors que bon, ils sont quand même contemporains. Lui, à l'époque, il s'occupait de tel quel. Bon, peu importe, mais Philippe Solers vous dirait que ne pas vouloir apparaître médiatiquement est un signe de puritanisme. Je pense que Debord était un grand puritain, comme Godard,
précisément.
Mais qu'en revanche, ce qui me plaît chez Debord, que j'aime moins chez Godard, c'est que Debord avait des rapports très libres avec l'argent, et je pense qu'on lui en a beaucoup voulu, si vous voulez, d'être à la fois un penseur radical de gauche, qui était pensionné par un grand bourgeois comme les Bovici, ou par son beau-frère qui était un grand antiquaire. Debord est quelqu'un qui était un esthète. Et c'est quelqu'un qui a toujours vécu dans des très beaux endroits. Il a vécu dans des très beaux appartements, à Paris, à Florence. Voilà, donc ça peut-être sa différence avec Godard. Mais ceci étant, il y a beaucoup de points communs. Dans la proximité idéologique, mais avec des chemins très très différents, stratégiquement très différents.
Une forme de radicalité dans l'expression, parce qu'il faut bien reconnaître que là, les dernières productions de Jean-Luc Godard défient d'une certaine manière l'entendement classique.
Certes, mais Debord n'hésitait pas à projeter des écrans tout noirs, sans bande-son. Ça, c'était vraiment les expériences très très radicales du cinéma expérimental des années 60, 50 et 60. Ouais.
Il n'a pas été lettriste pour rien. On a déploré récemment la mort d'Isidore Isou, fondateur de ce mouvement. Très franchement, quand on relit les textes d'Isou, dont s'est réclamé Debord à ses débuts, on a quand même un peu de mal à prendre ça au sérieux. Non ?
Oui, mais moi, encore une fois, ça ne m'intéresse pas. Je veux dire, le Debord avant-gardiste et expérimental a son intérêt, et je ne le dénie pas. C'est comme, c'est comme l'aspect idéologique de son action. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le Debord tardif, c'est le Debord classique, qui renoue avec la langue française et avec la bibliothèque, disons, un certain rapport. C'est celui-là. Ça m'a été beaucoup reproché par, précisément par les acteurs des années 60 et 70, qui n'ont pas supporté que quelqu'un de plus jeune, qui n'avait pas connu Debord à cette époque, s'empare de ce qu'il considérait comme la part la plus réactionnaire de Debord, en fait.